Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, grammaire, orthographe, sommes-nous coincés de la langue ? Qu'on se rassure, la Belgique ne fera pas cavalière seule sur la réforme de l'accord du participe passé. La Fédération Wallonie-Bruxelles l'a annoncé durant le week-end. Rien ne se fera en dehors d'un cadre international. Le participe passé va donc, jusqu'à nouvel ordre, continuer à s'accorder avec le complément d'objet direct quand celui-ci le précède. Je parle avec le verbe avoir, bien sûr, et à rester invariable lorsqu'il le suit. Alors, si une telle mise au point s'est avérée nécessaire, c'est suite à la publication d'une tribune retentissante dans Libération, celle de deux anciens professeurs belges, pour qui les gaufres que j'ai mangées ne devraient prendre ni E ni S à manger, comme c'est le cas avec la règle actuelle. Une nécessaire simplification, selon eux, qui ferait gagner du temps pour d'autres enseignements plus essentiels. Alors, comme il fallait s'y attendre, cette proposition a provoqué quelques grincements de dents, phénomène récurrent d'ailleurs en France dès que les règles de l'orthographe ou de la grammaire sont remises en cause, au point, écrit par exemple le linguiste Philippe Blanchet, qu'il est devenu presque sacrilège de ne pas les respecter, et même tout simplement d'en parler de façon distanciée. Alors, grammaire, orthographe, sommes-nous coincés de la langue ? Eh bien, c'est la discussion que nous allons mener ce soir en compagnie de trois invités. Josiane Boutet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociolinguiste, professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne. Vous co-dirigez la revue Langage et Société. Vous avez publié, c'était en 2016, aux éditions La Dispute, le pouvoir des mots. Pour discuter avec vous, Alain Mentolila, bonsoir.
Bonsoir.
Linguiste, professeur à l'université Paris-Descartes. Vous avez consacré de nombreux ouvrages, notamment à l'illettrisme. Je citerai deux ouvrages que vous avez consacrés à la langue française et à l'école. L'école contre la barbarie et la langue française pour les nuls, tous les deux, chez First Edition. Et puis notre troisième invité, Jérôme Piron, bonsoir.
Bonsoir.
Co-auteur de la tribune publiée lundi dernier, donc dans Libération. Alors, ce n'est pas une proposition que vous faites directement, mais vous évoquez cette proposition justement de Belge pour dire en quoi vous êtes d'accord. Vous êtes linguiste de formation, ancien professeur de français. Vous avez publié récemment chez Textuel la faute. J'ai du mal, moi, avec les accents, vous voyez. La faute de l'orthographe avec Arnaud Hout. C'est un livre publié, oui, chez Textuel, je l'ai dit, et qui est tiré d'un spectacle, La Convivialité, qu'on peut voir ou qu'on pourra voir à partir du 2 octobre et jusqu'au 14 octobre prochain au Théâtre Montfort à Paris. Alors, puisque c'est vous qui avez relayé cette proposition, peut-être que, et vous allez sans doute le faire beaucoup mieux que moi, nous réexpliquer quelle est cette nouvelle règle qui vous semblerait pertinente par rapport à ce participe passé, en particulier pour l'auxiliaire avoir.
Oui, alors la règle est très simple, c'est l'invariabilité du participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir, quelle que soit la position du complément dans la phrase. Je tiens tout de suite à préciser que ce n'est pas nous qui proposons ces règles, nous tentons juste de populariser des règles qui ont été déjà émises il y a quelques années par le Conseil international de la langue française, qui était présidé à l'époque par André Gauze, donc la personne qui s'occupe du grévis, du bon usage, hein, la grammaire de référence, et qui a de nombreux spécialistes en son sein, comme Marc Wilmet, qui est le grand spécialiste du participe passé. Et les propositions ont également été formulées par le Conseil de la langue et des politiques linguistiques de Belgique, enfin de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour être précis.
Donc invariabilité pour l'auxiliaire oui. Avoir, pour l'auxiliaire être.
Alors là, on accorde avec le sujet, pour faire simple.
C'est beaucoup plus simple, même oui. S'il y a peut-être aussi là, des choses à réformer. Je vais faire évidemment un premier tour de table pour savoir ce qu'Alain Mentolila et Josiane Boutet en pensent. Alain Mentolila.
Moi, je pense qu'on perd beaucoup de temps à vouloir changer des choses qui sont sans beaucoup d'importance. Très honnêtement, je pense que quand on accorde un participe passé avec le complément d'objet direct qui le précède, on fait parfois œuvre utile dans la mesure où on sait que le participe passé fonctionne avec tel mot et pas tel autre. Et s'il y a un mot masculin et un mot féminin, on sait que c'est avec le mot féminin qu'on va l'accorder, ou avec le mot masculin, ou avec les deux, auquel cas c'est un pluriel. Mais, je veux dire, pourquoi enlever à la langue cette capacité de marquer un accord. Un accord, c'est très important. Les accords, c'est quelque chose, c'est comme leur nom l'indique, les accords, ça permet de savoir qui va avec qui.
Mais si vous dites au début de votre intervention, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc finalement, après tout, ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire... Non, je veux dire que la bataille n'a pas d'importance. Il y a des choses infiniment plus importantes à faire que de.
Je comprenais par exemple
se battre pour le parti passé. C'est ça que je veux dire.
Mais est-ce que vous pourriez aller jusqu'à dire justement que les fautes que l'on peut faire par une mauvaise application de cette règle sont là aussi sans importance ou n'ont pas beaucoup d'importance ?
Je pense qu'il y a une règle et qui n'est pas sans pertinence. Cette règle, plutôt que de dire elle est trop difficile pour nos pauvres, pour les cerveaux débiles de nos enfants, ça leur fait perdre beaucoup de temps, ça va stigmatiser les enfants les plus fragiles, on devrait se mettre en quête de démarches pédagogiques efficaces et pour que tout le monde puisse appliquer la règle.
Alors je ne sais pas si c'est de cette manière-là qu'essaie de défendre cette nouvelle règle Jérôme Pirot, mais on va d'abord savoir ce qu'en pense Josiane Boutet, vous situez plutôt de quel côté vous
Je peux être d'accord avec Alain Bentolila sous l'aspect qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes. Je suis bien d'accord là-dessus, en particulier en dehors de la langue. En revanche, je suis absolument pour l'invariabilité. Je pense que cette règle, pour au moins quatre ensembles de raisons, je vais le dire le plus rapidement possible. Un, c'est pas une règle. C'est une pseudo-règle parce qu'elle n'a aucune rationalité. Elle oblige, alors, comme une grande part de l'orthographe, on y reviendra. Deuxièmement, elle a aucune légitimité historique. Elle est un bric-à-brac qui a été fait à partir du XVIe siècle sur un système à quatre formes. On pouvait dire, écrire plus exactement, j'ai écrit les missives. On pouvait dire j'ai écrite avec accord les missives jusqu'au XVIe siècle. Hein. On pouvait dire les missives que j'ai écrites. On n'accordait pas. Les missives que j'ai écrites, on accordait. Sur ce système variable qui vient du Moyen-Âge, il existe jusqu'au XVIe siècle. Là-dessus...
On reconnaissait que c'était quand même relativement compliqué. C'est peut-être mieux d'avoir simplifié la règle et d'en avoir gardé une seule plutôt que quatre, non ?
Je ne sais pas. Il faudrait demander à nos camarades qui ont écrit pendant cinq siècles s'ils trouvaient ça compliqué. Non, il n'y a pas de raison. Il y a des choses très compliquées en syntaxe. Ce n'est pas un problème. Simplement, il a fallu simplifier pour une raison qui n'est pas ça, ce que vous dites, qui est qu'on était en train de fabriquer la langue française. Hein, donc, et pour fabriquer la langue française, on a fait des choix. Simplement, on en a fait plein des choix, hein, pas que là-dessus. Mais ça, c'est un choix aberrant, parce qu'on choisit l'invariabilité quand le complément est après, j'ai écrit la lettre, et la variabilité quand le complément est avant. Donc ça, c'est complètement aberrant. Deuxième raison, c'est contre-productif au plan scolaire. On passe un temps fou, les élèves, les maîtres, à essayer de comprendre, sauf qu'il n'y a rien à comprendre, et à essayer d'appliquer, sauf qu'on n'y arrive pas, une règle qui ne fonctionne pas. Et en plus, elle est socialement discriminante, puisqu'elle produit un effet, comme aurait dit Bourdieu, de distinction. Il y a ceux qui vont réussir à la maîtriser, plus ou moins parfaitement, souvent imparfaitement d'ailleurs, y compris, voilà. Et il y a ceux qui n'y arriveront pas. Et du coup, vous allez être stigmatisé parce que vous n'y arriverez pas. Or, on ne peut pas y arriver. Je disais tout à l'heure, j'ai entendu un député avant-hier à la radio dire les lois que nous avons émises. Hein, vous voyez bien qu'il y a une insécurité même chez les députés.
Alors si vous voulez bien, Josiane Boutet, avoir peut-être de voir les autres raisons pour lesquelles ça vous semble une réforme pertinente, je voudrais qu'on revienne avec
ça veut
vous
pas dire
trois,
que
justement.
J'y crois, hein.
Bien sûr, j'ai bien compris. À la fois sur la dimension de la pertinence de cette règle telle qu'elle existe aujourd'hui et la perte de temps. Alors, restons sur la pertinence. Vous avez dit tout à l'heure, après je vais revenir vers vous, Jérôme Pirot, vous avez dit tout à l'heure à Alain Bentolila, cette règle, elle ne manque pas de pertinence. C'est-à-dire, pour... Alors, en quoi elle est pertinente ? C'est-à-dire, pourquoi, selon la place du COD, on va...
Si vous avez deux compléments d'objet direct, un féminin, un masculin, il n'est pas inintéressant de pouvoir accorder le participe passé uniquement avec l'un ou uniquement avec l'autre.
Vous avez donné une interview au Point dans lequel vous citez cette phrase. La Coupe du Monde que nous avons gagnée. Vous dites le E à la fin de gagner. Ça permet de savoir que c'est la Coupe qu'on a gagnée et c'est pas le monde.
Bien sûr. C'est pas le meilleur exemple du monde d'ailleurs. Mais il y en a d'autres, évidemment, où ça, on vous donne le choix de pouvoir accorder soit avec l'un, soit avec l'autre.
Oui, mais on n'accorde jamais quand il est après.
Pardon ?
Tu dis toujours les oranges que j'ai mangé les oranges. Tu dis pas j'ai pris les oranges. Tu dis pas j'ai pris les oranges.
Mais non, bien
sûr. Ben pourquoi ? Je veux dire, il n'y a pas plus de raison d'accorder que de ne pas accorder. C'est un avatar de l'histoire sur lequel que je trouve effectivement inintéressant, ça c'est vrai, mais qui fait perdre beaucoup de temps.
C'est pas intéressant de savoir justement les raisons qui ont fait qu'on a fini par adopter cette règle à la Bintolia.
Comme l'a dit Josiane, elle a parfaitement raison. Il y avait un laxisme total, c'est-à-dire que chacun écrivait comme il voulait. Et à un moment donné, la règle se fait parce qu'il fallait bien que la règle se fît. Et à partir de là, on a cette possibilité, effectivement, d'une règle qui permet de mettre en place cet accord. Pourquoi vouloir la changer aujourd'hui sous prétexte que elle est discriminante socialement, dis-tu, en citant Bourdieu?
Vous aurez compris que Alain Bentolila et Josiane Boutet se connaissent bien.
Oui, 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 mais je sais. Mais la question est la suivante. Est-ce que parce que certaines règles posent une difficulté, enfin une difficulté si on veut, c'est un automatisme, hein, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Parce que certaines règles posent difficulté, à ce moment-là, est-ce qu'il faut les supprimer? Sous prétexte que si on les supprime, à ce moment-là, on met tout le monde à égalité. Si c'était le cas, très honnêtement, et si la justice linguistique dépendait du participe passé, l'accord du participe passé, j'applaudirais des deux mains.
Jérôme Piron, sur la question de la difficulté, est-ce que c'est une des raisons pour laquelle vous soutenez cette réforme, de se dire ça va peut-être simplifier la vie, notamment des élèves qui pourront peut-être consacrer avec leurs enseignants davantage de temps à apprendre d'autres choses? D'abord, est-ce que cette notion-là de difficulté, elle se pose pour justifier d'une réforme?
Elle se pose dans un deuxième temps, mais certainement pas à l'origine de la réflexion. D'ailleurs, moi, je n'enseigne pas cette règle. Hein. J'ai des grands, donc je n'ai jamais eu de difficulté avec ça. L'origine de cette démarche vient des informations qu'on nous a fournies pendant
accord de l'ancien français
qu'on nous a fourni pendant nos études. En fait, on s'est inscrit dans la lignée des grammairiens belges. Moi, donc, j'ai cité Marc Wilhelm, il y a aussi Dan van Ramdonk, qui explique une chose qui n'est pas si compliquée à comprendre. C'est que avec être, quand on regarde les statistiques, les gens font l'accord sans grande difficulté. Les chiffres sont assez clairs dessus. C'est vraiment avec avoir que ça en pose plus. Donc, si c'était simplement l'effort et la difficulté, il y aurait autant de fautes avec être qu'avec avoir. Or, ici, c'est bien parce que ça heurte la logique interne de la langue telle que les locuteurs la perçoivent, la ressentent.
Et je est-ce que ça veut dire qu'à l'origine, justement, il n'y avait pas de logique? Et est-ce que c'est une forme d'arbitraire qui a fait que cette règle a été dictée de cette manière?
Il y a les travaux de Roger Martin, assez récents, qui peuvent attester d'une forme de logique qui a pu avoir cours à l'époque où la règle s'est fixée. Mais il faut bien constater que cette logique a évolué et je voudrais expliquer comment. Cela dit, au passage, je voulais quand même rappeler que le moment où cette règle se fixe, c'est une période qui est juste avant, on peut discuter des dates, mais la naissance de la linguistique elle-même. Donc, il serait quand même intéressant d'écouter ce que cette discipline a à dire sur une règle qui n'a jamais bénéficié, en fait, de son éclairage. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette évolution? Donc, avec être, elles sont arrivées. Arriver fonctionne comme un adjectif. C'est très proche d'une forme comme « elle est jolie ». Et donc, les gens perçoivent cette dimension adjectivale. «
Elles sont arrivées » ne fonctionne pas du tout comme un adjectif. Pardon, excusez-moi. On ne peut pas dire « ils ont arrivé ».
Mais
réfléchissez deux secondes.
C'est pas moi qui l'invente, ça. Je voudrais aller au bout de mon raisonnement, si vous le permettez.
Laissons Jérôme Piron aller jusqu'à
vous. Voir, c'est ça le nœud de l'histoire.
Vous avez choisi un mauvais exemple, c'est ça le problème.
C'est que... Ok. Avec avoir... le participe passé a perdu, dans la plupart des cas, je dis bien dans la plupart des cas, sa dimension adjectivale. À l'origine, on disait « j'ai une pomme mangée », mais je possède aujourd'hui une pomme dont la particularité est d'être mangée. Donc « mangée » était un adjectif, hein, comme quand on dit « fâché, elles ont quitté la pièce ».« Fâché » est un adjectif qui se rapporte à « elles ». Bon, donc ici, quand on dit « j'ai mangé », le terme qui est employé donc par les linguistes auxquels on s'est référé, c'est qu'il y a une fusion verbale. C'est-à-dire que le participe, en se rapprochant de l'auxiliaire, forme une forme verbale unique et n'est plus analysable en tant qu'adjectif.
Donc,
d'où l'invariabilité.
Si on se met sur le terrain de la logique, ça pousserait à favoriser l'invariabilité. En tout cas, est-ce que la logique de la langue et les difficultés qu'on peut avoir pour justement d'adopter en appliquer un certain nombre de règles, ça doit justement mener forcément à des réflexions pour faire évoluer cette langue, Josiane Boutet.
Si je peux me permettre, c'est toute la distinction entre les langues parlées et les langues écrites. Là, on a beaucoup raisonné sur la langue écrite, ce qui est normal parce que c'est le problème dont on parle. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs décennies, les linguistes dans le monde entier travaillent à la description des langues parlées. Pas seulement les langues exotiques comme on faisait avec les africanistes, mais le portugais, l'espagnol, l'anglais, le français. Et on s'est aperçu que dans les langues effectivement parlées, réellement parlées, avec des enregistrements, des corpus et des centaines de milliers de mots, on s'aperçoit que les gens ne le font plus, l'accord. D'abord, de toute façon, dans plein de cas, il ne se fait pas parce qu'il ne s'entend pas à l'oral, je veux dire. Hein.
Bah oui, je rappelle les crêpes que j'ai mangées, voilà, pour reprendre l'exemple de la tribune.
Vous n'allez pas
de
dire EES, vous voyez, je suis vachement fort et je dis EES, hein, donc on le dit pas, bon, bien sûr.
Ouais. Donc, écriture inclusive, parce que c'est malheureusement un scrape, tu leur enlèves ce genre féminin, c'est un scandale.
et donc
je crois qu'il y a un peu d'ironie dans ce que dit
à l'oral. Oui, j'entends bien. Et donc à l'oral, ceci a pratiquement disparu. Il est évident, du coup, que ça a des répercussions sur la langue écrite. C'est obligatoire. Enfin, un enfant qui dit c'est les filles que j'ai pris, il va écrire. C'est un mauvais exemple.
C'est un très mauvais exemple encore.
Excuse-moi, je trouve. Non, mais c'est filles qui vont.
En tout cas, l'usage de la langue à l'oral devrait être pris en compte pour penser l'évolution de la langue à l'écrit.
Mais la langue n'existe qu'à l'oral, d'abord. Les langues existent d'abord à l'oral. Leur version écrite, c'est un artefact, c'est autre chose. Donc les langues existent d'abord à l'oral. Simplement, en France, si on peut revenir à votre question initiale, nous avons des institutions extrêmement contraignantes. Je ne sais pas quel adjectif
rétrograde.
Le plus gentil me dire. C'est toi qui le dis. Hein. C'est lui qui l'a dit.
Ah oui, bien sûr.
Très, très contraignante.
Vous pensez à l'Académie française. Hein.
Absolument.
Voilà.
Absolument. C'est une catastrophe,
pour la
ça. C'est une catastrophe. Et donc, qui fait tout pour que rien ne bouge et que tout soit dans l'état où c'était à peu près au 19e siècle. Parce que l'accord ne s'est fait en fait qu'au 19e siècle. Avant, il ne se faisait pas à l'écrit. Hein.
Alors, pour citer justement un des membres éminents de cette Académie française, l'écrivain Jean-Marie Roire, qui réagissait justement dans Libération par rapport à cette invariabilité du participe passé, enfin de l'auxiliaire avoir, pardon. Il dit, si dans 50 ans, le participe passé après l'auxiliaire avoir est invariable dans les écrits, alors l'Académie enregistrera peut-être le changement. En gros, c'est l'usage qui, in fine, définit la règle, Alain Bentolila.
Oui, il a raison. Il a raison. Il me semble clair, si vous voulez, que... D'abord, il faut dire que il y a une différence entre l'oral et l'écrit. Et l'écrit n'est pas un simple artefact, comme tu dis, ça n'est pas simplement une graphie qui est proposée à l'oral. L'écrit a sa propre logique et à sa propre histoire et à sa propre évolution. Et l'écrit, évidemment, évolue beaucoup plus lentement que l'oral, ce qui est une très bonne chose. Je veux dire, il faut aussi se dire que un peu de sagesse, un peu de tranquillité, le rythme d'évolution de l'écrit nous permet d'avancer tranquillement.
Mais si ça ne modifie en rien le sens de la phrase, quel est le problème ?
Justement,
si ça modifie le sens, c'est problématique. Si ça ne modifie pas le sens.
La vraie différence entre l'oral et l'écrit, c'est pas le participe passé. Ouais. La vraie différence entre l'oral et l'écrit, c'est les structures grammaticales. Quand vous avez un gamin qui rentre au cours préparatoire et qui vous dit « Mon père, le vélo, le voisin, il a volé. » Bon. À l'oral, dans une situation très spécifique, vélo, voisin, père, tout le monde connaît, on comprend. Il va entrer dans l'apprentissage de la lecture et son manuel de lecture va lui donner des phrases du type « Le voisin a volé le vélo de mon père ». Ce sont deux structures qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est ça la grande différence entre l'oral et l'écrit. Ah oui. Ça n'est pas le fait que on a... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous perdez votre temps et vous nous faites perdre le nôtre. Vraiment, parce que les batailles ne sont pas là où vous les mettez. Oui, les batailles, elles sont dans ces enfants qui parlent une langue qui est à des années-lumière de la langue de l'écrit.
Mais je suis, Jérôme Piron. Je suis ravi.
Et ce n'est pas en cassant l'écrit que vous allez rendre service à ces enfants. C'est en mettant ces enfants proches de l'écrit, fortement proches de l'écrit, que vous allez leur donner une chance.
Il ne s'agit pas, je pense, chez Jérôme Piron, de les éloigner de l'écrit.
Non, pas du tout.
Est-ce que c'est de simple, est-ce que l'idée, c'est aussi de simplifier l'écrit.
Il ne s'agit pas de simplifier. Le terme qu'on emploie le plus souvent, c'est rationaliser. C'est ça le bon terme. Simplifier, ça c'est du raccourci de journaliste. Ouais. Donc, je suis assez content en fait de me rendre compte qu'on a un combat qui est très proche et qui est très similaire. Ouais. Vous parlez de temps, le temps qu'on vous fait perdre, le temps qu'on consacre à ceci, à cela. Apparemment, on vous aurait fait perdre beaucoup de temps avec ça. Je m'en excuse, mais je peux chiffrer, si vous me permettez, ce que je dis. On peut chiffrer le nombre d'heures que l'on consacre dans une scolarité à l'enseignement du participe passé, uniquement, à 80 heures. 80. Ça, les études sont nombreuses sur le sujet, c'est pas un chiffre qui sort de n'importe où.
80 heures, laissez parler sur le participe passé
et sa cohorte d'exception. C'est pas la petite règle de avant après qui prend 80 heures. C'est sur toute une scolarité. Alors, laissez-moi terminer. C'est 80 heures. Si on les consacrait, comme vous le dites, à de la syntaxe, à être capable de maîtriser l'ordre des mots, le choix des mots, de développer le vocabulaire, bref, de donner des outils d'expression et des outils de pensée, plutôt que de perdre son temps à des casse-têtes chinois ou à quelque chose dont les compétences intellectuelles relèvent du sudoku. Il faut bien appeler ça, les règles du participe passé, c'est du sudoku. Voilà. Donc je suis content parce que on va vraiment dans le même sens. On met les priorités sur les mêmes choses. Vous avez raison.
Et est-ce que votre logique, juste Jérôme Piron, c'est d'aller aussi vers d'autres modifications qui, parce que il y a des règles avec beaucoup d'exceptions, qui font là aussi perdre du temps. Enfin, c'est-à-dire, Qu'est-ce qu'on appelle une exception?
Il y a des exceptions qui sont arbitraires, il y en a d'autres qui sont des cas particuliers et qui sont porteurs de sens. Il ne faut pas tout mettre dans le même sac et le mot exception fait un peu ça malheureusement. Donc la question à se poser, et celle qui est vraiment notre point de départ, c'est telle ou telle règle, quelle est sa fonction au sein du système? Alors, comment est-ce qu'elle se développe? En fait, quand on fait de la linguistique sur l'orthographe, on apprend non pas à écrire sans faute, mais comment le système fonctionne. Et quand on apprend comment le système fonctionne, on apprend par conséquence quand il dysfonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui est apparemment très difficile à faire entendre.
Josiane Boutet, ensuite je reviens vers vous, Alain Bentolila.
Oui. Josiane Boutet. Là, je vois qu'on a, et c'est normal, gentiment glissé vers l'orthographe, et c'est normal, bien sûr. Alors, moi, je dis mon profond désespoir. Dans l'espace de ma vie, j'ai vu l'entreprise de Claire Blanche Bavnis et André Chervel faire flop.
Alors, de quoi s'agit-il?
C'était une proposition de réforme de l'orthographe dans les années 70. J'ai vu ensuite Nina Katache, spécialiste de l'orthographe, s'attaquer dans toutes les commissions possibles et imaginables. Voilà. J'ai vu plein de mes camarades faire partie de ce qui deviendra en 1990 les rectifications orthographiques qui ne sont strictement pas appliquées.
Mais ça, c'est pas que l'Académie française qui a bloqué ces réformes.
J'ai parlé de.
À quoi vous l'attribuez justement ces échecs dans ces projets de réforme? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une raison historique? Est-ce que c'est une résistance sociale qui est forte? C'est-à-dire un fort attachement aussi aux règles dans lesquelles on a été élevé?
Non, je pense absolument pas ça. Je pense qu'effectivement, nous sommes, avec l'anglais, un pays, enfin, avec la langue anglaise, je veux dire, nous sommes un pays qui n'a jamais réformé son orthographe depuis plusieurs siècles, alors que l'italien l'a fait régulièrement, l'espagnol l'a fait régulièrement. Donc, si vous faites les choses à petits pas, ça, on s'en sort. Là, maintenant, on est devant un tel monstre que, à moins de passer à une écriture phonologique que personne ne défend plus maintenant, ce qui était un peu le cas autrefois, mais personne ne défend plus, on ne pourra plus parce qu'on touche un petit bout. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, les auditeurs seraient affolés, mais si vous touchez un petit bout, il y a un truc très très loin qui s'effondre.
Mais pourquoi les Italiens ou les Espagnols, par exemple, y arrivent et pas nous?
Pourquoi ils ont fait des... parce que, alors là, bon, ça c'est pas compliqué.
Ce sont des pays qui ont des histoires aussi importantes.
Bien entendu, mais c'est des pays qui n'étaient pas fortement centralisés comme la France, c'est des pays qui n'ont pas créé, dès le XVIIe siècle, une académie française et un dictionnaire. partenaires. C'est des pays qui n'ont pas d'institutions. L'Italie a été jusqu'au fascisme, en fait, hein, avait plein de dialectes qui fonctionnaient, qui fonctionnent encore d'ailleurs très très bien, alors que nous, on avait déjà, en 1930, la langue française était complètement installée. Hein. Elle n'était absolument pas en Italie. Donc, on a fait une histoire depuis le XVIe siècle d'uniformisation parmi tous les parler de France sur une seule langue, avec une orthographe qui a bricolé des systèmes terrifiants et qui est aujourd'hui, à mon avis, irréformable. Je signale quand même que dans le document rectification de l'orthographe, la règle 6, je ne sais pas si vous la connaissez, mais tout de même, elle dit que le participe passé ne s'accorde pas avec laisser. Donc on écrit « je les ai laissés et partir », la maison qu'elle a laissée est saccagée. Vous le voyez souvent ça ? Les enseignants le savent ? C'est enseigné ? Personne. Donc c'est un document absolument, totalement officiel, remis au président de la République de l'époque.
Donc ça c'est la réforme de 90 ?
Oui,
c'est celle-là.
Absolument.
Hein, d'accord.
Il n'y en a pas eu d'autres depuis, de conséquentes depuis, non.
Alain Bentolila, moi, ce que j'ai découvert finalement en préparant cette émission, c'est que je ne savais quasiment rien sur l'histoire de la langue, sur l'histoire de la façon dont l'orthographe, par exemple, a été créée. J'ai appris beaucoup de choses, je dois dire, dans l'ouvrage de Jérôme Piron et d'Arnaud Hout. Pourquoi est-ce qu'on ne nous apprend pas finalement d'où viennent les règles que l'on doit appliquer ? On a quand même aussi cette impression que quand on va à l'école, il faut appliquer la règle, point, sans se poser de questions pour savoir d'où elle vient. C'est quand même toujours.
Vous voulez en rajouter
c'est
encore.
C'est juste impossible.
Là, j'en veux en rajouter. Non, je
80,
veux.
80 heures ne suffisent pas. Ah, vous allez.
Une fois libéré, elles suffiront.
Oui. On va pas aller trouver ailleurs. Non. Mais c'est passionnant comme histoire.
Mais oui, bien sûr que l'histoire est passionnante pour vous, pour moi. Elle n'apportera rien au destin des enfants fragiles de ce pays.
Rien de rien.
Vous comprenez. Il faut accepter.
Mais les enfants fragiles, ils ne sont pas notamment fragiles du fait,
non,
alors notamment
pas
de la complexité. Vous qui travaillez par exemple beaucoup sur l'illettrisme, est-ce que certaines règles ne sont pas des obstacles justement pour
aller contre
les difficultés?
C'est une illusion. Il ne faut pas croire, si vous voulez, que c'est en rabotant les règles que vous allez véritablement donner une chance plus grande à ceux qui sont nés du mauvais côté du périphérique. Ça n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre des mesures différentes, faire travailler les enfants sur ce qu'est la langue, comment elle fonctionne, en atelier. Et là, ils comprennent un certain nombre de choses. Par exemple,
donc c'est la pédagogie des règles, pas les règles qu'il faut changer.
Je prends un exemple.
C'est les deux.
La grammaire. Ça fait pratiquement 40 ans que dans les écoles françaises, on ne fait plus de grammaire, que les profs ne sont plus formés en matière de compréhension de ce qu'est la grammaire française. Et quand je dis grammaire, ce que je veux dire, c'est que je veux leur apprendre, ce que je dis à mes étudiants chaque fois que je commence mon cours de syntaxe et sens de l'année, je leur dis, vous savez, tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'ai vu un chou qui mangeait une chèvre. Et j'attends de voir ce qu'ils disent. Alors, évidemment, ils se posent des questions sur mon état mental. Et je leur dis, qu'est-ce que vous dites de ça ? Ils me disent, ben non, jamais. Mais vous savez bien que les choux ne mangent pas les chèvres. Et je lui dis, c'est ça le génie de la langue. Le génie de la langue, c'est de pouvoir dire ce que jamais vos yeux ne verront. C'est comme ça qu'on doit enseigner. Et donc, tous ces enjeux-là sont des enjeux qui ne sont pas des enjeux à la petite semaine de l'accord du parti passé. Faut-il l'enlever ? Faut-il
le mettre ? C'est vous qui en parlez,
hein,
vous remarquez.
Vous voyez ? Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, très sérieusement, si on veut donner une chance aux enfants fragiles, ceux qui ont 250 mots au cours préparatoire alors que leurs camarades en ont 2000, c'est pas rien quand même. Vous imaginez ce que c'est ? Si on veut donner une chance à ceux-là, alors il faut les prendre tranquillement, leur apprendre les règles telles qu'elles sont, leur faire surmonter les obstacles et non pas...
Pourquoi telles qu'elles sont?
Oui, c'est ça, pourquoi telles qu'elles sont?
Parce que les règles sont supprimer celles qui sont.
Mais je ne comprends pas votre argument.
Pourquoi ne pas supprimer celles qui sont?
Parce que c'est la langue. Moi, je refuse qu'on...
Madame, vous avez expliqué que la langue avait évolué à l'oral, on ne fait plus l'accord.
Elle est ce qu'elle est aujourd'hui.
Est-ce que c'est la langue? Est-ce que ce n'est pas la langue? Est-ce que pourquoi les garder en état?
Je ne comprends pas très bien, en fait. Il y a une revanche à prendre sur l'histoire de la langue.
Mais améliorer les choses, en quoi est-ce une revanche?
Franchement,
alors, Jérôme Piron et ensuite Josiane Boutet. Jérôme Piron.
Oui, je pense qu'il y a une chose qui pourrait un petit peu détendre effectivement ce débat et replacer les choses là où elles doivent. C'est que il y manque une chose et je souligne, vraiment le gouvernement belge lorsqu'il adresse sa demande d'un cadre international. Elle dit, il faut un cadre international. Moi, je pense que pour qu'on arrête de perdre tout ce temps avec ces discussions, c'est la solution. C'est la création d'un cadre international pour discuter de l'orthographe, où toute la francophonie serait représentée, et pas seulement la
Il existe ce cadre, c'est l'organisation de la francophonie, justement.
Oui, mais est-ce qu'il existe une section orthographique qui pourrait servir de référence commune à tous?
C'est ça.
On parle ici, pour arrêter de se prendre la tête, de la création de quelque chose qui permettrait d'être une référence commune pour toute la francophonie. C'est quelque chose qui a appelé des vœux de beaucoup de pays francophones depuis beaucoup de temps.
Est-ce que vous pensez d'ailleurs, Jérôme Piron, que penser ces questions de la langue française, en tout cas de l'orthographe, de la grammaire, en réfléchissant avec la francophonie et pas seulement la France, ça permettrait aussi peut-être de détendre, c'est-à-dire que est-ce que par exemple en Belgique, on a une approche en tout cas peut-être moins sensible et moins coincée, je ne sais pas, pour reprendre finalement le terme de ce soir de ces questions.
Vous le savez sans doute, on a une grande tradition de grammairiens en Belgique. C'est peut-être ça la plus grande spécificité, pas vraiment le côté décoincé, le côté important qu'on donne à cette discipline dans ce pays, y compris dans la formation des enseignants, puisque donc moi je suis de formation prof de français, et dans notre pays quand on devient prof de lettres, on n'appelle pas ça prof de lettres, on fait les romanes. La moitié de la formation, pour faire simple, est linguistique et l'autre moitié est littéraire. Donc vous voyez l'importance qu'on donne à ça. Peut-être que ça, c'est un trait spécifique de la Belgique. Oui. Pour les autres pays, je ne peux pas m'engager sur leur côté coincé ou pas, je ne sais pas.
Josiane Boutet, parce que vous aussi, la comparaison tout à l'heure entre le français et puis d'autres langues comme l'italien, comme l'espagnol, au sein de la francophonie, est-ce qu'on a des approches un peu différentes?
Il y a des approches différentes, pas du tout en francophonie africaine, mais qui est d'un certain point de vue encore plus coincée, comme vous dites. Ça s'est vu au moment des discussions des rectifications orthographiques. Par contre, pour le Québec, oui. Le Québec est beaucoup plus ouvert à la modification, à la transformation. Comme vous dites, ils sont moins coincés. Je pense que c'est juste que ce sont des pays qui ont des institutions différentes, des traditions différentes. Bon, ils ont un office québécois de la langue française, mais ils n'ont pas d'académie française. Et l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, est entièrement... ils n'y travaillent que des linguistes et des grammairiens.
En Belgique aussi, oui.
Ils ne travaillent que des linguistes et des grammairiens, pas des philosophes ou des anciens chefs de la République.
Parce que sur le plan historique, il y a moins de résonance.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a on n'a pas dit le mot de norme encore, mais il est souterrain. La norme en France, la norme... Non pas du bon usage, parce que le bon usage, c'est pas du tout la norme. Au contraire, c'est la grande variabilité, enfin le grévis. Mais la norme du bon français en France, enfin, et en tout cas en France, je ne sais pas, je ne veux pas dire ailleurs, mais en tout cas en France, c'est très très forte. Et c'est aussi beaucoup lié, et ça, mon collègue Philippe Blanchet l'a dit aussi, c'est beaucoup lié au fait que nous vivons depuis 5 siècles maintenant sur l'idéologie du monolinguisme. Nous vivons... Et d'ailleurs, en 92, je ne sais plus, on a rajouté dans l'article 2 de la Constitution française la langue française et la langue de la République. Ça n'y était pas. On l'a rajouté, c'est pour des raisons liées à la Charte européenne des langues minoritaires et régionales. Mais nous vivons globalement depuis 5 siècles sur un idéal que le français serait notre langue. Ce qui n'est pas vrai du tout, parce qu'il y a bien sûr d'autres langues en France. Il y en a 75 qui ont été répertoriées tout à fait officiellement comme langue régionale et minoritaire. Donc c'est pas du tout que le français. Mais il y a cette idéologie du monolinguisme. Et je pense qu'un pays comme le Québec, alors a fortiori, parce qu'eux, ils sont bilingues, ils sont dans un environnement totalement bilingue. La Belgique est aussi un pays officiellement bilingue. Je pense que ça change complètement l'appréhension des langues.
Le Québec, ouais. Au Canada, avec des francophones qui sont minoritaires, Alain Bentolila, et qui ont peut-être aussi besoin de faire évoluer la langue pour lui permettre de continuer à rester importante dans le pays. Est-ce que ne pas vouloir, en tout cas, la modifier, ça n'est pas aussi peut-être une preuve de sa faiblesse ? C'est-à-dire, on reste un peu,
Non, je ne crois pas. Si vous
sur la défensive.
Le fait de la modifier ou de ne pas la modifier ne changera rien à la bataille engagée au Québec et que je salue, évidemment. Cette bataille, elle se gagnera parce que on arrivera à faire en sorte que le français s'empare de territoires et de vrais territoires et que cette langue arrive à le disputer à l'anglais. Mais je voudrais souligner quelque chose dont on n'a pas parlé jusque-là. C'est le fait que les langues, l'orthographe des langues est une orthographe dont la transparence est très différente d'une langue à une autre. Le français, dans le sens de la lecture, c'est-à-dire des graphèmes vers les phonèmes, il y a 85% de prévisibilité. Vous pouvez dire à un enfant, si tu vois la lettre R, tu as 100% de chance de la prononcer re, ou etc. Mais en tout cas, tu as un correspondant phonique. Si tu vois CH, autre graphème, c'est 98% che, sauf orchestre, orchidée, etc. T'as qu'à l'apprendre par cœur. Bon. Dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de l'écriture, on est en prévisibilité à 54-55%. C'est presque du pile ou face. Il est infiniment plus difficile d'écrire en français que de lire. Mais c'est comme ça. C'est le génie de la langue française. Oui, c'est le génie de la langue française. Ça marche comme ça, le français.
Et donc, tout ce qui est français.
Et je finis simplement en vous disant que si les mots français sont aussi fantaisiste en orthographe, si on a des consonnes muettes finales, si on a des PH, des TH, des accents circonflexes, etc., c'est une bonne chose pour la lecture, parce que quand on lit, on ne lit pas lettre à lettre ou son après son. Et donc, tous ces éléments qui paraissent inutiles ou superfétatoires sont en fait des marques qui permettent de reconnaître les mots comme étant singuliers.
Alors justement sur ce sujet, pour terminer, Jérôme Piron, dans votre livre, vous prenez l'exemple alors d'un mot que vous inventez, un créfition.
Créfition, oui.
Donc, vous dites alors créfition.
Georges Legros qui a inventé et Marie-Louise Moreau.
De combien de façons on pourrait l'écrire oui. Le résultat, c'est combien
oui. Alors c'est 240. On a dû écrire un algorithme pour pondre ça. Et dans l'algorithme, on s'est quand même amusé à mettre toutes les formes qu'on n'a pas repérées, comme par exemple 2FY. Je ne pense pas qu'il y ait d'occurrence de 2FY en français. Et donc on a retiré.
Donc elles y sont toutes, toutes les façons d'écrire la création.
Donc on essaye vraiment d'avoir
le
chiffre exact.
Modèle du français.
Mais,
ouais. Sur le modèle du français.
Mais en trouvant ce résultat, 240, vous dites quoi ? C'est génial, l'orthographe est d'une telle richesse en France, ou au contraire, c'est bien la preuve qu'il faut essayer
Il
n'y en aura qu'un. Il n'y en aura qu'un, il y en a peut-être 240, mais si ce mot existait, il n'y aurait qu'une seule orthographe.
Sauf à supposer qu'il peut avoir 240 sens différents.
Ça n'a pas d'intérêt de dire ça.
Il y a plusieurs orthographes en français, il faut le rappeler quand même aussi. Il y a beaucoup de mots en français qui ont plusieurs orthographes. Le mot hachiche en a 5, par exemple.
Vous vous attendiez, Jérôme Piron, qu'à partir de cette tribune, même si ça a été beaucoup alimenté par Libération qu'il a publié, mais que ça provoque finalement à nouveau un débat dont on sent quand même bien que ce soir, il est à...
Libération était en manque.
Libération était en manque de débat.
À chaque rentrée ou presque, il y a des éruptions. L'année dernière, c'était l'écriture inclusive, exactement à la même époque. Ça a duré jusqu'au mois de février. Après, ça s'est arrêté. Et c'était aussi mal. C'était un débat aussi mal engagé que celui-là. Enfin, pas le débat qu'on vient d'avoir. Je veux dire, mais globalement. Excuse-moi, je dis pas celui-là. Celui-là est très très bien engagé, mais c'est.
Parce que les linguistes ne sont pas vraiment exprimés sur la question à part.
De l'écriture inclusive.
On n'a pas invité les gens qui ont
conçu quelques-uns, mais très peu.
En France, en Belgique, ils ont été présents dans les radios, mais en France, on n'a pas invité une seule personne qui est à l'origine des règles que l'on défend.
En tout cas, ce soir, on n'aura pas manqué le linguiste autour de cette table. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir mené cette discussion. Alain Bentolila, Josiane Boutet et Jérôme Piron. Je rappelle le spectacle dont est tiré votre ouvrage. C'est à partir du 2 octobre au théâtre Sylvia Montfort. C'est à Paris, dans le 15e arrondissement. Les références bibliographiques des uns et des autres, c'est sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Émission que vous pouvez réécouter, télécharger là aussi depuis notre site. Merci à toute l'équipe, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Ledoux, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron, avec à la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille. Dans quelques petites minutes, ce sera la dispute avec Arnaud Laporte. Arnaud.
Quand vous dites le théâtre Sylvia Montfort, vous voulez parler du Montfort ?
Je veux parler du Montfort.
Ah d'accord, ouais. D'accord. Il faudrait faire une petite mise à jour. Hein.
Quel snobisme, certains Arnaud
Laporte. Une dizaine d'années, mais tout va bien, Hervé.
Moi, je suis resté très, très fidèle. Donc vous n'allez pas
quelle à Bercy, sera la
vous
question
allez à l'Accor Hotel Arena, par exemple, c'est ça ?
Ah non, ça, d'abord, j'y vais pas, d'une part. Je vais au POPB, moi.
Voilà.
Vous allez parler de quoi demain ?
Et quelle question sera posée ? De la retraite par points. Je vous conseille de vous y intéresser.
Dans mon cas.
Est-ce qu'elle sera plus équitable pour vous, par exemple ?
Vous voulez qu'on parle de mon cas ? Non, je crois pas. On va pas parler des statuts de celles et ceux qui interviennent devant ces micros, selon leur fonction, leur parcours. Non, ça va être trop long. Merci
beaucoup.
C'est déjà
trop long.
Hervé Gardette.
Demain.
Ouais, ben je vais venir demain. Tiens.